C'est la deuxième heure de ce 1226e Sweet Home Chicago et nous parlerons avec Fred Chapelier de son tout nouvel album Live in Paris qui verra le jour le 15 mars chez Dixie Frog et dont vous pourrez entendre trois titres en exclusivité à l'occasion d'une nouvelle interview vérité où Fred se livre entièrement, en toute franchise, en humble artisan de la note bleue depuis tant d'années. Outre ce double live en octet avec la fine fleur du blues en France, nous évoquerons avec Fred Chapelier chacun de ses fidèles musiciens mais aussi Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell avec qui il a partagé de nombreuses scènes en 2014 et en 2017, les difficultés actuelle à percer et à vendre des disques, son label Dixie Frog, auquel il est fidèle depuis 17 ans déjà, et l'immense plaisir bien sûr qu'il a à se produire en concert, ses collaborations et avant tout sa passion du partage de sa musique avec un public qui le lui rend bien. Fred Chapelier Live in Paris sort le 15 mars, alors pensez à le commander. Je suis au téléphone avec Fred Chapelier. Bonjour Fred.
Bonjour Marc.
Comment vas-tu ?
Très bien, très très bien.
Avec grand plaisir comme à chaque fois. La dernière fois que j'avais pu t'interviewer, c'était en live, tu t'en souviens, c'était au Sous-Bois lors de ta dernière venue en novembre 2023.
Exactement, je me souviens très très bien. C'était une soirée assez mémorable d'ailleurs.
Encore merci pour tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin de cette soirée. Voilà, moi je n'oublierai jamais ce genre d'expérience montée sur scène avec vous les gars. Ça a été un vrai plaisir, pourquoi le cacher ?
Il fallait en profiter et ça faisait la dernière fois je me suis dit mais quel con j'ai pas invité Marc.
Mais
et là j'avais vraiment envie, je dis faut vraiment qu'on le fasse quoi, et c'était super, c'était top.
Oui, la musique c'est quelque chose qui se partage et ça a été un très très grand plaisir, hein, ce genre de choses que je n'oublierai jamais. Voilà, je referme la parenthèse personnelle pour nos auditeurs et puis on en arrive bien sûr à toi Fred. Alors ça fait un bon moment que tu es entouré pratiquement de la même équipe, des mêmes musiciens, en tout cas au moins le bassiste, le guitariste, le batteur. On va redonner le nom de tous les musiciens, les gens qui officient à tes côtés. Alors Guillaume Destarac, ça fait combien de temps qu'il joue de la batterie derrière toi, dis-moi Fred?
Tu sais, Guillaume Destarac, le batteur, et Christophe Garraud, ça fait quasiment 10 ans qu'on joue ensemble.
Voilà, ouais.
Ça fait quasiment 10 ans depuis le BTC qu'on avait fait avec Nico Wayne Toussaint et Neil Black.
C'est vrai.
Moi, j'avais rencontré Christophe à cette occasion. Enfin, je l'avais rencontré avant dans d'autres circonstances, parce qu'il faisait la première partie de la tournée Dutronc qu'on a fait en 2010.
Mais oui, en 2010, c'était...
En 2010, ouais. Voilà. Donc Christophe, je l'ai rencontré en 2010. Il était en première partie avec un chanteur corse et on s'était perdu de vue. On s'est retrouvé pour le BTC et là je me suis dit c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment vraiment il groove, il a le son, le garçon est charmant et Guillaume pareil quoi, même chose. Et comme j'avais envie, je l'ai déjà expliqué, mais j'avais envie de fraîcheur, de renouvellement.
Mais oui, à ce moment-là déjà, oui. Ouais.
Voilà, ils étaient tout trouvés quoi. Christophe Garraud à la basse et Guillaume Destarac à la batterie. Après j'ai intégré Jérémy Tepper depuis 5 ou 6 ans.
Ouais.
Et Patrick Baldran depuis 4 ou 5 ans aussi, quoi, ou 6 ans. Ouais, voilà.
Voilà, Patrick Baldran, avec qui tu avais déjà eu une expérience scénique, notamment aux côtés de Nina Van Horn, mais là, on remonte à une époque que les moins de 25 ans ne peuvent pas se rappeler.
Et bah puis, oui, disons.
Christophe Garraud aussi, qui avait eu une longue expérience avec un certain Paul Personne. Et puis, avec Guillaume, ils ont même figuré sur un album tout récent de Paul. C'était l'avant-dernier.
Absolument. Ils ont enregistré l'avant-dernier album studio de Paul.
Funambule, ouais.
Exactement. Qui est un bel album, d'ailleurs.
Mais oui.
Qui est un bel album.
Ouais. Et donc, voilà, et tous ces musiciens-là, donc Fred, qui sont avec toi, Christophe Garraud, Guillaume Destarac, Jérémy Tepper et Patrick Baldran, étaient présents notamment, bien sûr, je dis notamment, mais ça concerne nos amis de la région normande, en novembre dernier et au Sous-Bock, et c'est avec eux que tu te produis le plus clair de ton temps. Et puis, sur l'album qui va nous intéresser maintenant, Fred, Les Cuivres, parce que là, c'est pas n'importe qui. Je te propose de nous en parler un par un, des gens avec qui tu t'es produit dans d'autres circonstances. On commence par qui tu veux, Michel, Eric ou Pierre?
Écoute, on va commencer par le patron, on va dire.
Ouais, allons-y.
On va parler de Michel Gaucher,
oui.
Que j'ai rencontré, ça fait quand même 10 ou 15 ans que je le connais, mais on a commencé à sérieusement travailler ensemble pour la tournée des Vieilles Canailles, donc avec Johnny, Eddie et Jacques. Et Michel était l'arrangeur musical du projet. Voilà, donc saxophoniste de grand renom qui a travaillé avec tout le monde, hein, vraiment tous les grands artistes français, mais aussi avec Quincy Jones, avec un tas d'artistes étrangers qui sont des sommités. Et Michel est aussi à l'origine des Chaussettes Noires avec Eddie Mitchell. Donc, enfin, c'est une personnalité, hein, c'est un personnage et c'est un grand, grand musicien, vraiment.
Ouais.
Exceptionnel arrangeur. Moi, je me suis dit, tant qu'à prendre des cuivres, je vais prendre ceux que je considère comme les meilleurs, comme étant les meilleurs. Quand j'ai proposé à Michel, il m'a dit, il était tout de suite emballé, quoi. Ça le bottait de faire un peu autre chose, de faire du blues. Voilà, donc ça a été très facile. Bon, on est amis hein, depuis longtemps. J'ai pas mis longtemps à le convaincre. Et donc voilà, Michel au sax. On a Eric Mula Alors pareil, hein, Eric Mula, trompettiste, qui joue avec tout le monde depuis la nuit des temps, quoi.
Hein, on l'associe parfois à Eddie Mitchell, je me trompe ?
Non, tu te trompes pas du tout. Eddie Mitchell, Michel Jonas, Véronique Sanson, Johnny voilà. Hallyday. Il faisait partie aussi du groupe... tu te rappelles de cette grande époque de Canal Plus avec le groupe LOL?
Ah oui.
Le groupe, et ce garçon faisait partie de ce groupe. Il était dans l'équipe Canal Plus. Voilà.
Donc il a joué très régulièrement avec Basile Leroux, par exemple.
Ah oui, ils ont joué. Ils jouent très régulièrement ensemble. Voilà. Et Michel Gaucher fait aussi les tournées actuellement. Les trois cuivres qui sont avec moi sont en tournée avec Michel Jonas. Voilà. Et ils jouent très très souvent ensemble. C'est ce qu'on appelle une vraie section de cuivre.
Oui.
Que ça soit pour Eddie, pour Véronique Sanson, pour voilà, pour Jonas, pour les vieilles canailles, ils ont l'habitude de jouer ensemble, quoi. Voilà.
Ouais, contrairement à certaines sections de cuivre qui sont associées à un projet, par exemple un album studio, et qui vont apprendre par cœur en deux jours sur partition tout ce qu'il faut faire, et puis qui ensuite on va plus les voir avec eux. Toi, non seulement tu enregistres avec eux, mais tu te produis avec eux sur scène.
Ben oui, tant qu'à faire. Ben oui, moi j'ai pas envie de proposer quelque chose au rabais sur scène par rapport à l'album, donc je les embarque avec moi en tournée, ils sont ravis, et voilà, et je leur fais une belle place, parce qu'évidemment, le quintet, c'est une chose, mais l'octet avec les trois cuivres, il se passe plein de choses, il se passe encore plein d'autres choses, avec des passages pour chaque cuivre, enfin, c'est vraiment passionnant, et ça apporte vraiment un swing, quelque chose de classieux, dont je rêvais depuis très longtemps. Et on a la chance d'avoir aussi Pierre Vangelo au saxophone, deuxième saxophone. Donc il y a deux saxes et une trompette.
Ouais.
Pierre Vangelo, même équipe avec les mêmes artistes français, frère de l'illustre Jean-Yves Vangelo, pianiste ultra réputé évidemment. Voilà, donc ces trois bonhommes, moi je suis très fier de les avoir. Et en plus, ils s'éclatent, quoi. Toute la musique qu'on aime, elle vient de là, elle vient du blues. Hein, donc...
Fred, voilà. C'est vrai, tu évoques le fait que tu tournes régulièrement en quintet et puis en octet avec ces trois-là, donc Michel Gaucher, Eric Mula, Pierre D'Angelo. Est-ce que c'est pas difficile en 2023, 2024, heure actuelle, Fred, de proposer un endroit de jouer à 8 musiciens? Est-ce que ça ne devient pas carrément mission impossible quand il s'agit d'un petit endroit, par exemple?
Bah écoute, comment dire? Je sais pas si j'ai la chance ou si mon nom permet de pouvoir vendre cette formule. Peut-être, en tout cas, en mars, on a 5 dates et les 5 dates sont en octet, à 8, quoi. Tu vois?
Bon, y a des gens qui appellent la chance. En fait, l'autre nom de la chance, c'est le travail et l'obstination, quelque part, non?
Ah, mais de toute façon, moi, je travaille d'arrache-pied depuis 30 ans. Je ne lâche rien et je suis un obstiné et je suis un bosseur. Vraiment, je suis un bosseur. Je veux dire, j'ai plein de défauts, mais je suis pas un feignant, quoi. Et voilà, c'est aussi essayer de mettre toutes les chances de son côté, essayer de proposer le meilleur dans ce qu'on peut faire. Je veux dire, on a des limites aussi financières parce que on n'a pas d'énormes boîtes de production derrière. C'est fini tout ça, hein, tout ce temps-là. Donc voilà, mais moi j'ai envie de proposer aux gens quelque chose qui tienne vraiment la route, quoi. Et en plus, il me semble que pour ces concerts, les prix d'entrée sont vraiment pas excessifs, quoi.
Oui, quand on compare avec certaines
exactement.
Certaines sphères, certaines stars, certains
voilà.
artistes. Que ce soit dans le blues ou ailleurs, d'ailleurs, de toute façon.
Ah, bien sûr, mais bien sûr.
Alors, on t'attend au tournant, bien sûr, puisqu'il y a des tas de concerts, tu viens d'en parler, pour mars, qui se sont bookés en octet. Et j'ai envie de dire, malgré tout ce que tu dis, c'est vrai que sous ton nom, Fred, maintenant, tu peux prétendre te produire sur des grands festivals, dans des grandes salles. J'ai envie de dire, malgré ça, il y a toujours des gens qui, dans ce petit monde du blues, continuent à galérer. Qu'est-ce que tu serais tenté de donner comme conseil, Fred, avec du haut de ton expérience, d'une bonne trentaine d'années de scène? Et puis, je ne sais pas, on peut remonter aussi à Cachemire, hein, à tes premières formations. Avec toute cette expérience que tu as accumulée, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, Fred, aux artistes, soit qui veulent se lancer, soit qui le font avec un succès depuis plusieurs années?
Bon, alors, je vais répondre à cette question, mais avant, il faut quand même que je précise que moi, je suis arrivé quand même à un bon moment. C'est-à-dire que il y a 30 ans, on pouvait jouer partout.
Ouais.
Ça jouait partout, en trio. Moi, j'ai fait mes armes dans les bars, dans les pubs, dans tout un tas de petits endroits comme ça où on était payé correctement, sans plus. Mais on s'en foutait. On voulait faire nos preuves, on voulait faire nos armes, quoi. Tu vois, se roder. Et donc, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où c'était encore possible. En 2023, c'était quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué pour les jeunes qui veulent se lancer ou même ceux qui sont déjà un peu établis. Mais il y a tellement de monde En fait, le problème, il est un peu là, c'est qu'il y a tellement de monde que ça devient compliqué, quoi. Et il y a peut-être plus assez de festivals ou d'endroits pour pouvoir programmer tout le monde.
Ouais.
Donc les programmateurs, je les comprends, ils sont obligés de faire des choix aussi, tu sais. Et puis, moi, je garde juste plusieurs choses à l'esprit, c'est que il faut jamais abandonner. Il faut jamais se démoraliser quand on essuie un refus. Tu vois, moi, j'en essuie toujours des refus. Il y a des endroits où je suis encore jamais passé, mais c'est pas grave du tout.
Mmh.
Moi, je suis patient. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait pas, c'est pas un drame, quoi, tu vois. Mais le conseil, c'est de continuer à travailler. Il faut pratiquer, travailler, essayer de pas perdre espoir, et puis essayer de se montrer le plus possible. Il y a 25-30 ans, je prenais ma guitare, je montais à Paris, ça me coûtait un aller-retour, ça me coûtait de l'argent parce qu'il fallait que je mange sur place, j'étais pas payé, mais j'allais me montrer, j'allais taper le bœuf. Voilà, faut aussi s'automotiver et puis ne pas hésiter à bouger un petit peu aussi. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne marche jamais quand on attend à la maison que le téléphone sonne.
Oui, alors voilà, ça, on peut être très déçu, effectivement. Si je résume ce que tu dis, Fred, ces conseils-là, ça serait en trois mots: le travail, l'obstination et l'exposition.
Exactement.
Parce que, alors, il y a 30 ans, comment on faisait, tu viens de le dire, on allait à Paris et puis on allait jouer pour pas grand-chose, mais il fallait être vu. Maintenant, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Est-ce que ça suffit, d'après toi, les réseaux sociaux, pour véritablement faire parler de soi maintenant? Parce que tu l'as souligné tout à l'heure, il y a de plus en plus d'artistes et les places sont pas forcément extensibles.
C'est ça. Alors, le problème, il y a quand même deux problèmes majeurs avec les réseaux sociaux. D'un côté, c'est fantastique parce que ça permet de faire de la promo rapidement, très rapidement, gratuitement. Mais il y a tellement de monde que beaucoup de gens passent vraiment, voilà, ils vont écouter 5 secondes, ils vont passer à autre chose.
Eh oui, il y a l'effet zapping, oui, effectivement.
Mais évidemment, c'est comme avec Deezer, Spotify. Nous, à l'époque, nous qui sommes très vieux, à l'époque, quand on achetait un 33 tours, on l'écoutait 50 fois, on l'usait, quoi. On se l'appropriait et voilà, c'était un achat. Donc il fallait absolument l'écouter, puis on avait envie, quoi. Maintenant, il y a tellement de propositions, il y a tellement de monde que je comprends que les gens soient un peu perdus par moment, quoi. C'est pas simple. Alors les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est évidemment pas suffisant.
Ouais.
Et moi, je vois plein de jeunes très très doués qui ont leur chaîne YouTube et qui sont des experts en chaîne YouTube et pour se filmer chez eux dans la chambre et faire des super vidéos. Mais pour moi, c'est pas ça le rock'n'roll et le blues, tu vois. Pour moi, ça se passe sur une scène, quoi.
It's new. When my soul. I got blues on my radio. Les paroles sont faciles, à vous. C'est pas mal du tout. Encore un peu, encore un peu. Dernière fois. Vous êtes extraordinaire, merci Paris.
Est-ce que c'est pas justement un réflexe qui a été acquis lors des années Covid 2020-2021? On le sait, ça a manqué à beaucoup de gens la scène, à tous les artistes, on va dire, pour simplifier. Et certains se sont réfugiés derrière leur caméra, justement, pour continuer à être visibles auprès de leurs fans et puis continuer à faire de la musique en live, entre guillemets. Mais effectivement, dans la chambre ou dans le salon, c'est pas exactement les mêmes vibrations. Mais il y a des gens qui ont gardé ce réflexe-là et qui vont pas forcément revenir sur plus de 15 ou 20 dates par an. Qu'est-ce que tu en penses?
Il y a des gens qui ont gardé ce réflexe, mais je pense que ça date de bien avant. Hein.
Ouais.
Ça date de bien avant. Oui. Moi, je.
Ça a été amplifié, peut-être, on va dire, par le Covid. Ouais.
Oui, ça peut-être été amplifié un peu par le Covid, mais je vois des gens qui sont très très doués, qui mériteraient d'être sur scène, qui ne font que des vidéos sur YouTube, quoi. Et pour moi, c'est pas ça, quoi. Le métier de musicien, ça, c'est un aspect du métier de musicien, mais il faut pas que ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, le but, c'est quand même... Quel est le but de la musique? C'est de la partager avec les gens, quoi.
Bien sûr.
Moi, je fais pas de la musique. Pour moi, le virtuel, c'est bien, mais... Il y a un moment, moi j'ai envie de voir quelqu'un sur scène, quoi. Tu vois, si je veux voir un artiste, je vais le voir sur scène. Je regarde pas YouTube 50 fois, quoi. Tu vois, je préfère payer ma place et aller le voir. Mais parce qu'on est de cette génération-là aussi, je me demande si c'est parce que c'est un peu ancré dans les mœurs maintenant, les jeunes fonctionnent un petit peu comme ça. Alors, il y en a encore qui font de la scène, mais c'est compliqué. Mais sincèrement, j'aimerais pas avoir 25 ans, enfin, pour ce qui est de l'aspect musical, j'aimerais pas avoir 25 ans maintenant, aujourd'hui. Quoi,
voilà, ça revient à la question que je te posais, effectivement, sur le conseil, par exemple, aux jeunes qui voudraient démarrer, ou en tout cas, mieux se faire voir. Il faut compter sur les chaînes YouTube, les réseaux, mais également peut-être aussi le support physique, les disques. Toi, tu continues à enregistrer des disques, Fred, hein?
Alors, moi, je continue à enregistrer des disques parce que... J'ai la chance d'avoir quand même un public qui aime encore acheter des disques.
Ouais, on en parlait la dernière fois justement par rapport à cette dichotomie qu'il y a entre ce que tu disais, Spotify, Deezer, donc les plateformes, on va simplifier, et puis les albums. Donc toi, ton public qui continue à acheter le physique, c'est bien, c'est quelque chose sur lequel tu continues à surfer, mais les ventes s'épuisent partout, quoi. Et je pense que tu ne fais pas exception à la règle, Dixie Frog ne fait pas exception à la règle, malheureusement.
Ah, mais je te confirme que les ventes, en 10 ans, se sont effondrées de 80%,
à peu énorme, près. Énorme, ouais.
80%, voilà. Un manque à gagner énorme, mais bon, voilà, quand on a la foi, on continue. Après, je dis pas que je ferai des disques ad vitam aeternam, parce que ça coûte quand même de l'argent de faire des disques, et si c'est pour en vendre 500 ou 1000, il y a un moment, ça coûte plus d'argent que ça n'en rapporte, quoi, tu
exactement,
vois.
Exactement, ouais.
Mais pour l'instant, non, moi, j'ai la chance en concert, en magasin, j'en vends encore, pas mal, ouais. Mais ça s'est aussi effondré de 80% en ce qui me concerne. Hein. Mais j'en vends pas mal en concert, et tant que j'en vends en concert, voilà, le problème, c'est que j'ai l'impression que tout est fait pour que le CD se vende plus. Il n'y a plus aucun lecteur CD dans les nouvelles bagnoles.
Ça, c'est un fait. Ouais, ça, c'est bien dommage, c'est vrai.
Mais ça continue de tuer complètement le marché du disque. Et alors, il y a certains aficionados qui aiment acheter les 33 tours. Les vinyles, donc je fais des vinyles maintenant, sauf pour ce dernier album parce qu'il est trop long pour le faire en vinyle. Voilà, donc il ne sera pas en vinyle, ça, sinon ça sera un triple et là ça coûte une fortune à produire.
Puis à acheter parce que s'il faut rentabiliser, hein, qui de toute façon de l'autre côté de la chaîne. Hein.
Exactement. Donc c'est compliqué parce que les gens me disent, j'entends de plus en plus, oh mais j'ai plus de lecteur CD.
Ouais.
Bon, dans les bagnoles on n'en parle même plus, dans les voitures on en parle même. Moi je garde ma voiture uniquement parce qu'elle a un lecteur CD.
Bon, alors, juste pour te rassurer, je suis allé voir l'autre jour, je me suis renseigné, parce qu'effectivement, ça arrive de moins en moins en série. Ils vendent encore des lecteurs CD autoradio qui peuvent te fixer. Tu vas dans un magasin spécialisé pour les pièces auto. On peut encore greffer un vieux lecteur sur une bagnole neuve. Hein. Je te le dis, c'est encore possible en 2024. Est-ce que bon, ça va durer? J'en sais rien.
Alors là, c'est retour en 1988 avec le Alpine qu'on enlève avec la main, avec le tiroir. Là,
bah, ouais. Oui, et puis les tiroirs avec 10 ou 12 CD qu'on foutait dans le coffre pour ne pas se les faire chourer.
Voilà, c'est ça.
Voilà, mais sans sombrer, ouais. Fred, sans sombrer dans le misérabilisme ou dans la nostalgie, c'est vrai qu'on vit une époque charnière, on en parlait lors de la dernière interview, on consomme la musique totalement. De façon complètement différente maintenant. Et voilà, ça fait partie aussi des affres des musiciens actuels, qu'ils soient débutants ou confirmés. Comment faire pour vivre de sa musique? Il faut jouer, quoi. Il faut faire de la scène, c'est ça l'idée.
Ben, il faut faire de la scène, il faut jouer, et puis il faut jouer, et puis de toute façon après moi c'est physique, quoi. J'ai besoin physiquement d'aller sur scène, quoi. Enfin, c'est parce que je suis de cette génération là moi j'ai mon premier concert, je l'ai fait en 1983. Il y a plein d'auditeurs qui étaient pas nés, à mon avis, en 1983.
C'est au moment où j'ai commencé la radio, figure-toi aussi.
Ça, bon, ben voilà. Ouais. Voilà. Ben, tu vois, mon premier concert, je l'ai fait en 83. Donc, ça fait plus de 40 ans. Donc, moi, je suis habitué à ça. C'est quand même, quelque part, ma vie sur scène. J'adore enregistrer, j'adore produire. Je fais plein de choses en parallèle. Mais le kiff absolu, c'est d'être sur scène, évidemment.
Et que ce soit sous ton nom, sous le nom des groupes qui t'ont précédé, avec qui tu as pu te produire lors des années 80, 90 et 2000. Et puis aussi avec des artistes français, des gens qui comptent ou qui ont compté ou qui vont continuer à compter dans ton cœur. En tout cas, je pense à Jacques et Thomas Dutronc, par exemple.
Bien sûr.
Tu as partagé cette grande, grande tournée de plus de 80 dates en 2010. Ils avaient remis le couvert en 2022 avec toi. Et ça aussi, c'était vraiment formidable. Ça s'est arrêté à Noël 2022. Et est-ce que Jacques, petite question annexe, est-ce que Jacques Dutronc a vraiment, vraiment officiellement décidé d'arrêter la scène? Parce que tu me disais l'autre jour, avec Jacques Dutronc, on ne sait jamais.
Ouais, on sait jamais, mais...
Dans une interview, j'ai entendu dire « Non, mais attends, pour moi, c'est vraiment, vraiment fini. » Il était à côté de Thomas, qui était témoin de ça. On ne verra plus Jacques sur une scène, même invité pour 2-3 titres en fin de concert.
Alors, pour ce qui est de tourner Jacques Dutronc, je pense sincèrement qu'on ne le verra plus. Oui, on en parle très souvent. J'en parle très souvent avec lui. Je pense qu'il a 80 ans. Il a 80 ans, il ne faut pas oublier. Il est quand même fatigué. La tournée de 2022 était super, mais... il s'est rendu compte quand même que il avait 80 ans, quoi. Et c'est fatigant, les voyages, c'est pas la scène qui est fatigante, c'est tout ce qui est autour.
Mais oui.
C'est tout ce qui est autour, c'est des journées de voyage, c'est des nuits courtes, c'est tout ça, c'est compliqué, même s'il voyageait dans de bonnes conditions. Mais je pense sincèrement que on verra plus Jacques en tournée. Après, moi je perds pas espoir et je le tanne d'ailleurs. je le tanne. Oui, mais d'ailleurs, il aimerait bien. Il était très malade quand je suis passé à Patrimonio l'an dernier, parce qu'il voulait venir. Il voulait venir chanter quelques titres avec moi. Ah, c'est bien dommage. Je l'ai dit à personne, évidemment, parce que ça aurait fait des déçus. Mais il était trop malade et il faisait 45 degrés, quoi. Donc j'ai pas voulu lui faire prendre de risques. Il m'a dit non, je préfère ne pas le faire. Mais rien n'est impossible à ce niveau-là. Voilà.
D'accord.
On sait pas. Ou un enregistrement, une chanson, ou pourquoi pas.
Mais c'est vrai que les conditions de tournée que tu évoquais tout à l'heure, Fred, c'est compliqué, les nuits sont courtes, il y a beaucoup de kilomètres entre les dates. Par contre, on pourrait imaginer, je sais pas, de l'autre côté du business, on peut très bien imaginer de se dire, on va pas jouer tous les soirs, on va jouer en laissant deux dates off entre chaque concert, mais ça coûte beaucoup d'argent, parce qu'il y a des camions sur la route, il y a des techniciens à payer sur les jours off, ça devient ingérable finalement. C'est ça qu'il faut comprendre aussi.
C'est exactement ça qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les productions font très 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 attention à ça, et ils veulent rentabiliser. Donc eux, un concert deux jours off, c'est mort d'avance, quoi.
Oui,
eux, il leur faut 2-3 concerts d'affilée, parce que tout coûte cher, tout coûte blinde, quoi. Louer les salles, les camions, là, on parle quand même de, je sais pas moi, mais 50 personnes sur la route, quoi, tu vois.
Ouais, ça c'est énorme.
C'est énorme. Donc tout ça, ça a un coût. C'est pas forcément évident.
Fred, on parle des concerts. Il y a forcément des grands souvenirs qui te reviennent comme ça, que ce soit des festivals ou des salles en particulier. Est-ce que si tu as un regard rétrospectif sur une trentaine d'années de carrière, est-ce que tu penses particulièrement à Cahors, à Cognac ou à d'autres endroits dans lesquels tu as partagé vraiment des moments inoubliables?
Ah oui, il y en a plein. Il y en a énormément. Cahors, Blues Festival, j'y suis allé plein de fois. J'ai joué plein de fois, j'ai, J'y ai fait des concerts sur la grande scène plusieurs fois. J'ai fait des plateaux avec des invités. J'ai fait des masterclass. J'ai à peu près tout fait à Cahors. J'ai malheureusement dû annuler la dernière fois où j'étais programmé parce que j'avais vraiment des ennuis de santé. Mais comme je suis pas du genre à étaler mes problèmes personnels, j'en ai pas spécialement parlé, mais j'avais dû annuler pour raison de santé. Vraiment. Mmh. Mais ça arrive. Donc j'étais déçu. Ça m'a déçu parce que il y a vraiment un attachement et on a toujours eu une entente vraiment fraternelle avec Robert et sa femme. Et voilà, donc je regrette vivement cette annulation. J'espère y retourner un de ces quatre. Ça reste, Cahors reste vraiment plein de souvenirs. Et la première date que j'ai faite à Cahors, comme ouais. quoi tu vois, il faut garder espoir. C'est que la première date que j'ai faite à Cahors, c'était pour les concerts dans la rue, quoi, tu sais.
Ah oui, c'est vrai. Ah ouais.
Et oui, c'était il y a 25 ans, quoi.
Ça remonte au début du siècle, peut-être bien.
Là, ça remonte au siècle dernier, en tout cas.
Carrément.
C'est sûr. Et puis bon, j'ai fini par gravir un peu les échelons et monter sur la grande scène en tant que Fred Chapelier, voilà. Mmh. Mais ça a pris des années, quoi.
En tout cas, moi, je me souviens d'une date en 2012 où tu jouais avec Tom Principato et où juste après toi, il y avait Paul Personne. C'était une soirée absolument incroyable, quoi.
Ouais, c'était une belle soirée. C'était une ouais. très belle soirée. Ouais.
D'autres souvenirs comme ça qui te reviennent, que ce soit avec les Vieilles Canailles, par exemple, parce que tu as partagé des grands moments d'adrénaline à jouer aux côtés de Eddie Mitchell, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday.
Je n'ai passé que des grands moments plein d'adrénaline. Ça a été ça de A à Z. Que ça soit en 2014 ou en 2017,
ouais.
ça a été l'adrénaline au taquet, vraiment. Parce que être sideman et avoir à sa droite Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc et jouer des morceaux qui sont assez légendaires, que j'écoutais quand j'étais gamin, c'était quand même vraiment fabuleux, quoi. Et on a passé des moments extraordinaires, humainement et musicalement. Et puis c'était vachement émouvant. Et en 2014, Johnny était encore bien en forme. En 2017, on sait qu'il était au bout du rouleau, mais malgré tout, on a tous pris une leçon de vie, quoi, parce que il était mourant, faut dire ce qui est, quoi. Il était mourant et il montait sur scène quand même. Sa voix était intacte. Voilà, ça devenait Johnny et c'était juste incroyable. C'est une leçon. Hein. I believed you. I was ready to.
Avant, Fred, d'évoquer ton nouvel album live qui s'appelle Live in Paris, je voulais savoir quels sont les artistes français qui comptent pour toi en 2024. On va parler plutôt côté pépinière par rapport à ce message que j'évoquais tout à l'heure sur le travail, l'obstination, l'exposition, qui sont en fait le triptyque de comment faire pour percer. Quels sont les artistes français qui comptent pour toi en 2024 ?
Alors moi, le problème avec moi, c'est que j'ai beaucoup de mal à écouter ce qui se fait de nouveau.
Ouais.
Depuis très longtemps, malheureusement. Je sais pas pourquoi, comme je dis toujours, on pose la question souvent. Et je dis toujours, moi, j'ai l'impression d'avoir épuisé ma capacité à découvrir des choses. Tu vois?
Déjà.
Mais, donc, j'entends des choses que je trouve bien, mais j'arrive pas à les écouter.
Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais tu vois, par contre, on évoquait les festivals. Ça aussi, c'est la possibilité pour un artiste qui va jouer en deuxième partie d'aller regarder sa première partie, de se dire putain, ce mec-là, quand même. Il y a eu des rencontres comme ça, quand même, scéniquement. Je parle pas de disque, Fred, mais là, avoir des gens nouveaux sur scène, il y a des gens qui t'ont frappé l'œil, l'oreille.
Mais j'ai du mal à répondre à cette question parce que je suis devenu hyper difficile, en fait. Hyper difficile.
Ouais.
J'ai du mal à vibrer à quelque chose de nouveau. On parle souvent, j'ai croisé plein de mecs, j'ai même joué avec Eric Gales, des mecs comme ça, tu vois, qui sont des mecs qui font beaucoup parler d'eux en ce moment, qui est un guitariste extraordinaire, mais au bout de deux morceaux, je suis lassé. J'ai l'impression d'avoir épuisé mes capacités, tu vois, d'ingurgitation de nouvelle musique, en fait.
D'accord.
Alors, par contre, je suis capable de dire, ce groupe-là, il joue vraiment bien, ça chante bien, voilà. Mais je vais pas l'écouter pour autant, quoi. Parce que la raison principale, c'est quand même que je veux absolument jamais être influencé par ce qui se fait actuellement. Voilà. Donc,
ça veut dire, Fred, que dans ta tête, continue à se créer et à se recréer les notes en boucle des Roy Buchanan, des Albert King, de Peter Green, voilà, tous ceux qui ont compté pour toi et à qui tu as rendu hommage, d'ailleurs, au fil de ta carrière.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que on parle de blues. Moi, quand j'écoute du blues, c'est les gens que tu viens de citer, Et plus Albert Collins, plus Luther Allison, plus les bluesmen avec lesquels j'ai grandi, quoi. Tu vois.
Ouais.
Et, je préfère écouter ça que écouter ce qui se fait maintenant. Mais bon, ça veut pas dire du tout que c'est moins bien et qu'il y a pas de qualité, parce qu'il y a, j'entends quand même. Il y a des super artistes, des super groupes et des super chanteurs, chanteuses, guitaristes. Il y a quand même des jeunes groupes. Moi, un groupe à qui j'ai donné un coup de main, c'est Lionel Blues Gang.
Et oui.
Ils ont des, ils ont des capacités. J'aime bien ce qu'ils font, mais pas t'en citer 50, quoi.
Eh ben écoute, c'est pas grave, Fred. De toute façon, voilà, la radio se fait fort d'essayer de faire découvrir tous ces nouveaux talents, effectivement. Puis quand je dis la radio, c'est pas bien sûr uniquement Sweet Home Chicago, c'est aussi toutes les autres radios qui s'intéressent au blues. Et on va en arriver à ton album, Fred, que tu sors actuellement avec Christophe Garraud, Guillaume Destarac, Jérémy Tepper, Patrick Baldran, Michel Gaucher, Eric Mula et Pierre D'Angelo, d'enregistrement Live in Paris. Et la dernière fois qu'on en a parlé, tu n'avais pas voulu nous révéler le nom de l'endroit exact où avait été enregistré ce disque. Est-ce que c'est toujours secret? Et si oui, sinon pourquoi? Ou si oui, pourquoi?
Non, c'est plus secret. Ça a été enregistré au Jazz Club Méridien, au Jazz Club Étoile.
Bah oui, parce que j'ai vu passer une photo sur les réseaux il y a pas très longtemps que toi tu avais posté. Hein, je sais plus si c'était ta photo de couverture ou en tout cas c'est toi qui l'avais mis. Et effectivement, on arrivait à lire jazz, le mot jazz, mais c'était bien cette scène-là. On est d'accord.
Ouais, c'est bien cette scène-là.
Voilà. Et donc ce live qui est un double album, tu l'as souligné tout à l'heure, qui ne sera pas édité donc en vinyle, mais qui existe à partir du 15 mars en CD, un double CD. Comment est-ce que tu as fait pour bâtir ce répertoire? Comment ça se compose et pourquoi le choix de ces titres-là?
Déjà, je voulais mettre en évidence pas mal de titres de mon dernier album en date, Straight to the Point,
ouais.
Où il y avait déjà des cuivres, il y avait déjà ces trois mêmes cuivres. Donc, c'était évident que j'avais envie de jouer ces morceaux-là avec eux sur scène. Voilà. Après, j'ai tapé dans les morceaux de mon répertoire, des morceaux que j'ai coécrits avec Billy Price, avec Neil Black. Voilà, donc j'ai tapé un peu dans mes albums d'avant et j'ai inclus deux ou trois morceaux de gens que j'ai envie de reprendre, toujours pour les mêmes raisons, pour les faire connaître au cas où les gens ne connaissent pas Peter Green, Roy Buchanan, Albert King. Voilà, donc il y a très peu de reprises, mais il doit y en avoir trois. Il doit y avoir deux morceaux de Peter Green et un morceau de Roy Buchanan sur cet album. Voilà.
Est-ce que ce choix-là, il a aussi été le fruit, pas seulement de ta recherche dans ta propre discographie, mais de conseils extérieurs ?
Je refuse tout conseil parce que je détiens la vérité.
Alors ça, je te crois pas du tout. Désolé, elle passe pas cette réponse, Fred.
Non, évidemment, on me propose des choses, les musiciens qui jouent avec moi, mais sincèrement, c'est rarissime, c'est rarissime, et jusqu'à présent, ils m'ont jamais dit « Ah non, ça, c'est pas terrible de jouer ce morceau-là, de faire cette reprise ». Jusqu'à présent, ils sont ravis de les jouer, et je choisis quand même des morceaux que j'adore par-dessus tout et que j'ai vraiment envie de jouer, et tout le monde se régale en les jouant, donc voilà.
Et surtout en version longue, parce que là, on est sur du live, bien sûr, les morceaux, ils font pas 3 minutes 30, c'est pas du jukebox. Là, il y a du solo de guitare, et pas seulement du solo de guitare de Fred Chapelier. Tu laisses aussi la place à Jérémy et à Patrick.
Absolument, je laisse la place, et au cuivre, je laisse la et place à tout le monde. Mais bien sûr, moi je veux pas à tout prix jouer toutes les parties lead. Non, moi la musique, c'est le partage, donc j'ai des musiciens de qualité. Quand je demande à Jérémy de faire un solo, je sais qu'il va jouer, qu'il va le faire super bien, parce qu'il joue très très bien. Quand c'est un sax, c'est pareil. Et j'aime le fait d'avoir le sax qui prend un solo, ça apporte une autre couleur d'un seul coup. Et moi, j'aime que ça soit assez varié, quoi. J'aime que le show soit assez varié. Alors effectivement, il y a pas mal de morceaux longs. Il y a aussi des morceaux qui font 4 minutes ou 4 minutes 30. Mais le choix a été... Ça s'est un peu imposé tout seul, quoi, en fait, hein, finalement.
Voilà. Au fil du temps, au fil de tous tes albums précédents. Une question par rapport à Dixie Frog, c'est un label auquel tu es fidèle depuis de nombreuses années, et j'allais dire malgré le changement de propriétaire. Toi, tu as connu l'époque Philippe Langlois, avec maintenant le duo que compose André Brodsky et François Massant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la politique artistique ou économique, tout simplement, de Dixie Frog Records ?
Non, globalement, c'est resté, en ce qui me concerne en tout cas, pour les autres, je sais pas, mais en ce qui me concerne, c'est resté la même chose. Donc, on fonctionne de la même manière que la façon dont on fonctionnait avec Philippe Langlois.
C'est-à-dire avec la confiance en premier ?
Ah oui, totalement la confiance en premier. Et le mot d'ordre, que ça soit Philippe à l'époque ou François et André maintenant, c'est de toute façon, c'est toi l'artiste, c'est toi qui as le dernier mot. Donc voilà. Donc, ils ont une confiance absolue.
Ouais.
Et c'est un travail d'équipe. Ils font un très bon travail. Ça se passe super bien. Moi, ça fait 17 ans maintenant que je suis chez Dixie Frog.
Ouais, c'est énorme. Ça, c'est de la fidélité, effectivement. Tu es arrivé à peu près en même temps que Rick Beebe, je ne sais plus exactement.
C'est à peu près ça. Donc, 17 ans quand même. Ça se passe très, très bien. Il y a une confiance mutuelle, en fait. Eux, ils sont ravis de sortir mes albums. Moi, je suis ravi qu'ils sortent chez Dixie Frog. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, certes, on vend plus qu'on vendait il y a 10 ou 15 ans, mais on se bat. Voilà, on tient le coup.
Voilà, ça, c'est ce qu'il faut retenir de cette collaboration entre Fred Chapelier et l'équipe actuelle de Dixie Frog, avec tous les musiciens qui composent ton line-up. Et puis, bien sûr, tu vas t'employer à défendre ce double live in Paris sur toutes les scènes. Est-ce qu'il y a des dates, des festivals, des grandes salles comme ça qui arrivent déjà en 2024 et qui sont signées, des choses qu'il faut signaler aux auditeurs ?
Ah oui, il y a déjà pas mal. Il y a déjà 25 dates signées, mais on en attend au moins autant, quoi.
Il y a
quelques festivals. Le plus simple, c'est de regarder sur mon site, parce que je les ai pas en tête, tu vois, les dates.
C'est ce qu'on va faire.
Regardez sur fredchapelier.fr, et là il y a toutes les dates de concert qui sont mises à jour, je dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines, quoi, parce qu'il y a des ajouts tout le temps. Il y a une demande, c'est une année qui s'annonce vraiment prolifique au
très
niveau
bien.
Concert.
Alors on va pas tout citer, bien sûr, mais on va quand même parler de la date du 18 mars prochain au New Morning. C'est une date particulière. Est-ce que c'est une release party, Fred ?
Alors, on fait une pré-release party le 9 mars dans une belle salle à Saintes. Voilà, c'est en partenariat avec mon ami Pascal du Quai du Blues, club extraordinaire où on joue régulièrement. Et là, pour l'occasion, On le fait dans une salle plus grande, parce qu'on est, on est 8 sur scène, donc voilà, pour qu'il y ait plus de monde. Donc ça, c'est le 9 mars à la salle Saint-Onge, ouais, à Saintes. Donc cette date est super importante aussi, parce que c'est une pré-sortie de l'album, une pré-release, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Et l'album sera pas sorti, mais il sera déjà en vente ce soir-là, par exemple, tu vois.
Bah, c'est une question qu'on te pose souvent sur les réseaux, de savoir si, bah tiens, je vais aller te voir à tel jour, à tel endroit, est-ce qu'il y aura l'album ? Oui, l'album, il sort le 15 mars officiellement, mais dès le 9, tu pourras en proposer aux spectateurs.
Exactement. Exactement. Voilà. Et puis après, il y a le New Morning. Il y a trois dates d'affilée. Il y a le New Morning, le 18, toujours à 8, hein, avec les cuivres. Le lendemain, on est à Elkirch, c'est Strasbourg. Et le surlendemain, on est à Colmar, au Grienne, toujours en octet, avec l'équipe au complet, quoi.
Très bien, ben, on a toute la liste de dates, tu l'as dit, sur fredchapelier.fr. J'avais une dernière question par rapport à tes collaborations, et puis pensons à l'avenir. 2024 va se passer très bien, on le voit, avec de bons auspices, puisqu'il y a ce double album live qui sort et toutes les dates qui rentrent. On est d'accord que c'est que du bon pour Fred Chapelier. Mais là, je voulais avoir un petit regard rétrospectif avec toi, Fred, sur certaines collaborations que tu as pu avoir. Par exemple, Nico Wayne Toussaint, Litfoot Rivet, ou encore Dale Blade, Tom Principato, Neil Black, Billy Price. Il y a d'autres noms comme ça qui peuvent te venir à toi à l'esprit. Est-ce que si tu devais avoir des projets de collaboration avec d'autres artistes, tu me l'as dit la dernière fois, tu travailles toujours avec Billy Price par exemple,
hein, ah
mais
oui.
Il y aurait un invité ou des invités à faire venir sur un prochain album studio. Est-ce qu'il y a déjà des noms qui te viennent à l'esprit, Fred ?
Écoute, on avait commencé à élaborer un projet avec un chanteur que je trouve extraordinaire qui s'appelle Tad Robinson.
Ah oui, 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 c'est vrai. Tu m'en avais parlé.
Oui, qui est un chanteur extraordinaire, ouais, qui joue de l'harmonica aussi très bien, mais c'est surtout un grand, grand chanteur. Et puis pour des raisons de timing, d'emploi du temps, ça a pas marché cette fois-ci, mais on avait commencé à écrire des chansons, à composer des chansons ensemble. On garde ça dans un coin de nos têtes, peut-être. D'accord. Que ça sera dans un an, deux ans, trois ans. C'est vraiment le mec avec qui j'aimerais concrétiser quelque chose, quoi.
Très, ouais, bien. Tad Robinson, voilà, on se souvient de ses prestations avec Alex Schulz, le fabuleux guitariste.
Exactement. Ouais, ouais. Exactement.
Super. En tout cas, voilà, Fred Chapelier, qui a partagé la scène pas mal de fois avec Jacques Dutronc. On va rappeler que t'es né l'année de la sortie des Cactus, quand même.
Ça, c'est... Je crois même que les Cactus... Non, c'est pas les Cactus.
Non, c'est pas les Cactus.
C'est Et moi, et moi, et moi.
Ah oui.
Le premier tube de Jacques est sorti le mois où je suis né, en fait. Ah, voilà.
Ouais. Juin 66, rappelons-le. Voilà.
Ouais, 1866. C'est ça.
Oh, retour vers le futur 4, impeccable.
Voilà, voilà.
Fred Chapelier, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose ? Et si toi, tu avais quelque chose à dire à nos auditeurs, ce serait juste le moment. Merci en tout cas pour toutes ces révélations et cette belle interview. Est-ce que tu aurais des choses à nous dire ?
Eh bien, écoute, non, juste en m'adressant aux auditeurs, merci d'écouter encore des bonnes stations de radio, d'écouter du blues, de soutenir le blues, de soutenir les artistes français, même étrangers, mais on a besoin de ça, quoi, du soutien, on a besoin, ça fait plaisir aussi de voir des petits mots, des petits commentaires, voilà, parce que même si c'est pas de notre génération, on s'y est mis quand même un petit peu au réseau et on suit l'actualité, c'est quand même, il y a quand même des côtés très positifs à tout ça, et voilà, donc juste saluer les auditeurs, les remercier pour leur fidélité et puis surtout remercier le public d'une manière générale qui vient à mes concerts depuis ces nombreuses années et puis qui continue à le faire. Pour moi, c'est la plus belle récompense et tant que ça sera comme ça, je continuerai.
Merci,
voilà.
Fred, merci pour ta générosité et puis ce message que tous les gens vont prendre au cœur, bien entendu. Merci Fred et puis à très bientôt avec, sur la route.
Avec beaucoup de plaisir, Marc, comme d'habitude.
À bientôt Fred, merci.
À bientôt. We'll be right back.
to make. Don't take me for a loser, baby. I have one more move to make. You're about to find out that you made a big mistake.
Merci à Fred Chapelier pour cette interview. On a pu écouter trois extraits du Live in Paris chez Dixie Frog. Blues on my radio, I'd rather be alone et Don't take me for a loser. On termine avec une nouveauté dans ce 1226e Sweet Home Chicago. Il s'agit du tout nouvel album de Mike Zito qui s'appelle Life is Hard. Ceux qui connaissent l'histoire savent pourquoi cet album s'appelle comme ça. Et voici le titre album. C'est avec ça qu'on se quitte aujourd'hui.
Everywhere, oh, it's everywhere.
Life is Hard par Max Zito. C'est ainsi que se termine le 1226e Sweet Home Chicago. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 2 mars, avec deux nouveaux invités. Alain MGC pour le My Rockers numéro 41 consacré à Emerson, Lake and Palmer. Et Philippe Géhan pour son actualité et sa méthode d'harmonica. Salut, bye bye.